Mais au pas top, il est 20h sur Radio G. Et à tous et bienvenue sur Radio G, c'est Quasar on the Air, un troisième numéro de la nouvelle saison qui vous rejoint ce soir en direct, 101.5 Radio G, Quasar on the Air, une fois tous les 15 jours et repérez bien ces semaines paires. Alors aujourd'hui, des invités, encore comme toujours, nous allons parler d'un documentaire diffusé lundi prochain qui s'appelle « Unique en son genre ». Nous aurons sa réalisatrice au téléphone. Nous allons parler également avec Jérémy Perrard de la Pride Toulouse qui a eu bien des soucis et nous allons revenir largement sur ce bras de fer avec la préfecture de Haute-Garonne. Et puis nous allons revenir sur le vote de mardi dernier sur la question très sensible mais très importante des thérapies de conversion avec cette loi qui a été votée en première lecture à l'unanimité. Nous y revenons dans quelques instants. Et nous ouvrons notre agenda Quasar on the Air. Il est tout simple en fait, c'est l'énumération des grands rendez-vous du mois pour ce qui concerne Quasar. Alors samedi prochain, nous serons le 9 octobre et dès 14h, eh bien, nous avons un grand rendez-vous pour le rangement de l'après-pride. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, il faut toujours ranger. Alors les bienvenus aux bénévoles et aux personnes qui veulent donner un coup de main. Toujours samedi à 15h, c'est Transat, le rendez-vous des personnes transgenres à genre et non binaire, à 15h dans nos locaux, et puis toujours dans nos locaux à 17h, ce sera la permanence ouverte à tout le monde. Vendredi 15, c'est le grand retour des conviviales, attention avec contrôle du pass sanitaire, comme à chaque fois, comme les autres années, on apporte quoi grignoter et en profiter. Samedi 16, eh bien à 14h30, ce sera la réunion des actrices et des acteurs bénévoles de Quasar qui feront le bilan de la Pride 2021, 14h30 samedi 16, et puis à 17h, la permanence. Le vendredi 21 octobre à 19h à Quasar, c'est transparent, ce temps de groupe de parole pour les parents et les familles des personnes transgenres, agenres et non-binaires. Le vendredi 22 octobre à 19h, ce sera la réunion des croyants LGBT Anjou et puis d'autres permanences. Les samedis 23 et 30 octobre prochains, ce sera à 17h dans les locaux de Quasar. Un Quasar on the Air qui commence sur les chapeaux de roue pour parler de la question transidentitaire à travers un documentaire qui va être diffusé lundi soir, le 11 octobre à 23h sur France 3, Pays de la Loire. Nous accueillons sa réalisatrice, la documentariste Pascale Fournier, qui est documentariste depuis 2012. Bonjour Pascale. Est-ce que Pascale nous entend ?
Moi ?
Oui, je t'entends. Voilà.
Tu m'entends ?
Je t'entends parfaitement. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je disais donc que tu es documentariste depuis 2012 et on te connaît particulièrement aussi pour avoir travaillé la question de l'homoparentalité avec un documentaire diffusé sur France 3 aussi, Pays de la Loire. Mes parents, c'est héros ordinaires. Si je ne m'en trompe pas, c'était 2018-2019, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Avec Magali, Michael, Bruno et surtout Agathe qui était l'enfant de cette homoparentalité organisée. Et là, tu nous reviens avec lundi soir, un documentaire qui a pour titre « Unique en son genre ».
Donc, alors après... non, justement, stop. C'est pas « unique en son genre », c'est « unique en mon genre ».
Exact. J'ai pourtant bien noté « en mon genre ». Et alors, on va justement discuter de pourquoi ce titre. Mais donc, après l'homoparentalité, donc le genre maintenant, très exactement l'identité de genre, pourquoi ce choix, pourquoi cette envie de thème de ta part ?
Alors déjà, moi je peux dire que ma marque de fabrique, c'est de faire des films sur des sujets sensibles, sur des personnes qui sont invisibilisées dans la société et surtout stigmatisées. Et je me suis rendu compte que les personnes transgenres souffraient vraiment de cette stigmatisation et qu'il y avait aujourd'hui de plus en plus de personnes transgenres, de jeunes surtout, et donc c'était devenu un phénomène sociétal et qu'il était urgent d'en parler. Parce que souvent ces personnes-là sont isolées, même si elles communiquent au départ sur Internet, parce que les jeunes justement communiquent sur le web, c'est ce qui a fait un peu comment dire
se mettre en contact avec moi, mais déjà se mettre en contact entre elles, parce que
justement, grâce au web, grâce à Internet, elles se sentaient plus seules. Avant, elles se croyaient seules au monde et ne pouvaient en parler à personne. Donc là, elles ont pu communiquer par le web, surtout les personnes jeunes, très jeunes, et il y a de plus en plus de jeunes qui osent maintenant, qui osent se dévoiler leur transidentité, même s'affirmer en tant que personne transgenre.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment nouveau, et j'ai voulu faire un film sur ce sujet, et aussi pour que ça soit mieux connu par les parents, les professionnels, tous ceux qui entourent ces jeunes.
Et est-ce que ça a été compliqué de convaincre France 3 à nouveau ?
Non. D'abord, j'ai dû convaincre mon producteur, 13 Productions, qui me suit, qui me fait confiance. Et ensuite, on a proposé le sujet à France 3, mais avec un angle bien particulier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de donner la parole aux personnes transgenres sans intermédiaire, ni spécialiste, ni conseiller de tout poil, ni journaliste. Et j'ai choisi de mettre en valeur les entretiens d'autosupport dans les associations, notamment là dans l'association Nozick, parce qu'à l'époque, en 2019, il n'y avait pas encore de team trans à Quasar.
Voilà, c'est vrai.
Oui, autrement, j'aurais pu faire ce film à Quasar. Et donc, je me suis tournée vers Nozick et j'ai rencontré la présidente de l'époque, qui est une de mes protagonistes, qui s'appelle Martine. Donc, j'ai trois protagonistes principales qui sont des femmes transgenres, Martine, Gwenola et Clara, et qui reçoivent toutes les personnes concernées en questionnement dans les entretiens. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de recueillir leurs paroles pour que le public les comprenne davantage, soit proche, donc créer cette proximité par cette parole intimiste et par cette façon de filmer un peu en huis clos. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire comprendre ce qu'est la transidentité, ce que peuvent vivre les personnes transgenres quand elles démarrent un parcours et tout ce qu'elles peuvent rencontrer comme difficultés, comme questionnements, l'entourage aussi, les parents. Les parents sont très présents dans le film également, et les jeunes mineurs, des jeunes majeurs, voilà. Et donc les personnes qui reçoivent sont des personnes d'âge mûr qui ont une vie avant, qui sont elles-mêmes parents, donc qui comprennent bien les problématiques des parents qui viennent, qui les rassurent et qui ont fait un parcours de transition complet.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec tous ces éléments de base, il y a quand même un regard et une écriture de documentaire, parce que c'est contraint, 52 minutes. Comment est-ce qu'on aborde cette question ? On va d'abord rencontrer les protagonistes et on voit comment on peut poser sa caméra, comment on peut faire, ou déjà tu avais toi-même l'idée complète de ce qu'on va voir lundi ? Ou est-ce que ça se fabrique au fur et à mesure ?
Les deux. Déjà, bon, il faut que je puisse proposer un angle de vue, comme je te l'ai dit, assez appuyé. Donc, mon angle, c'était la proximité et les entretiens. Donc, mettre en avant la parole, c'est presque un, un film radiophonique, on va dire, mais pas que, parce qu'après, j'ai filmé les moments de vie de Clara Guenola et Martine, parce qu'à force de les voir de face, on a envie de les connaître, puisqu'elles ne parlent pas du tout d'elles. Quand elles sont en entretien, ben, on a vraiment envie de rentrer un petit peu dans leur vie et de les découvrir. Donc, en fait, voilà, donc il y a ces moments de respiration dans le film qui fait qu'on sort de cette pièce, de ce huis clos d'entretien. Mais surtout, j'ai voulu faire une narration, enfin, pédagogique, entre guillemets, puisqu'on s'adresse au grand public, donc c'est-à-dire une majorité de gens, de néophytes, qui ne connaissent pas du tout la transidentité. Donc, il y a une progression, je dirais, mi-pédagogique, d'une certaine manière, pour qu'on comprenne progressivement un petit peu tous les aspects, toutes les facettes de la transidentité.
C'est-à-dire que le documentaire tel qu'il est construit, c'est qu'au fur et à mesure qu'il progresse, on a les portraits des trois personnes qui reçoivent, on va revenir sur ces personnes-là dans quelques instants, et puis les interventions des personnes concernées, voire des parents, permettent au fur et à mesure d'appréhender les questions, les difficultés, et de voir plusieurs facettes. Et on est bien d'accord, 52 minutes, on ne peut pas tout aborder, c'est bien ça la difficulté.
Mais en fait, on aborde les grandes questions qu'elle rencontre très souvent dans les entretiens. Toutes les grandes questions, les grandes thématiques qui reviennent régulièrement sont abordées.
On peut dire que ce documentaire-là, pour ceux qui le verront, et qu'il sera d'ailleurs rediffusé le mardi 12 dans la matinée à
9h40. 9h45.
Voilà. 9h45. Et on peut dire que les gens vont au fur et à mesure découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et progressivement se forger finalement une sorte d'approche culturelle des questions des personnes transgenres qui sont dans le film.
Oui, voilà. Parce que pour l'instant, les personnes transgenres sont méconnues, sont victimes de préjugés, sont stigmatisées. Et même rejetée encore, hein, même si dans mon film, les familles qui viennent, les proches sont bienveillants. Mais même en étant des fois bienveillants, par exemple, j'ai l'exemple d'un père qui a vraiment du mal à genrer son fils au masculin.
C'est ça.
Voilà. Donc, il y a toute cette temporalité des parents qui est différente aussi des enfants, que j'explique, enfin qu'on comprend, c'est pas moi qui l'explique, qu'on comprend dans le film aussi.
D'accord. Alors, à la différence des premiers protagonistes de ton autre documentaire, Mes parents, c'est héros ordinaires, c'était Magali, Mickaël et Bruno, qu'on connaît bien à Quasar et pour cause. Cette fois-ci, les protagonistes, les personnes transgenres concernées qui témoignent, qui racontent leurs difficultés, c'est un choix volontaire de ne pas montrer leur visage, de les filmer de dos ou de filmer des parties de leur corps, leurs mains, leurs pieds. C'est pourquoi ce choix finalement ?
Pour les protéger. Pour les protéger parce que certaines personnes sont en questionnement. D'autres sont en pleine transition, donc le parcours de transition est progressif. Mmh. Et donc ce sont des étapes de changement physique et elles ne tiennent pas forcément à être reconnues dans ces moments-là. Certaines personnes ne sont pas outées, donc ce n'était pas à moi de le faire. Et oui, c'est ça. Et puis d'autres personnes ont un très bon passing et ont changé d'identité et n'ont pas du tout envie que les gens sachent qu'elles étaient transgenres avant.
Et ces points-là sont hyper importants, et d'où ce choix cinématographique, on va dire cela comme ça, de façon à effectivement les protéger, puisqu'on rappelle que les personnes trans, lorsqu'elles ont effectué leur passing, elles n'ont plus envie d'être reconnues comme la personne transgenre. Elles sont hommes, femmes sociales, et ça suffit largement à leur bonheur, et ça ne doit être connu que des personnes à qui elles souhaitent ou pas en parler, en fait. C'est bien
absolument
ça.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
C'est bien ça, oui, qui est pris en compte là et qui est vraiment très important à expliquer et à faire. Alors, en revanche, l'astuce, c'est de mettre en avant les trois figures, les trois personnes de la commission trans de Nozig, Martine, Clara et Guenola. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ce sont vraiment trois personnalités différentes avec des caractères quand même différents, mais qui se complètent, si j'ai bien compris. Et je le sais parce que je les connais bien, mais c'est pour que tu nous expliques un peu ce que toi tu as ressenti.
Eh bien déjà, ce sont des personnes qui ont une grande douceur, qui sont en empathie, qui ont un vécu et une expérience importante, qui sont toutes les trois parents, donc elles ont toutes les trois des enfants. Elles ont fait une, on va dire, une transition tardive, contrairement aux jeunes qu'elles reçoivent. Et elles connaissent un peu toutes les problématiques liées à la transidentité. Elles sont militantes aussi, elles ont une forte capacité, ben j'en dis du bien forcément, elles ont beaucoup de charisme, elles sont intelligentes, elles sont intégrées socialement, elles ont toutes les trois un boulot, mais en plus public, puisqu'il y en a deux qui sont profs et une qui est conductrice de car, donc elle... Clara est conductrice de car et donc elle est en contact avec le public toute la journée. Et elles assument complètement leur transidentité au grand jour. Elles le revendiquent et disons qu'elles, au contraire, elles n'ont pas envie de passer inaperçues. Au contraire, elles ont encore des choses à le dire. Elles veulent militer à travers leur transidentité et elles veulent aider les autres surtout.
Et ce qui est important, c'est que ce sont des personnes qui sont déjà dans un parcours de transition réalisé et déjà avec une hormonothérapie déjà ancienne, ce qui leur permet, elles, d'être bien, bien assises et véritablement être en capacité d'être des personnes aidantes en n'étant pas enfermées dans les problématiques de la prise hormonale débutante qui parfois peut créer des variations, des sautes d'humeur et ne pas être toujours facile pour les personnes aidantes. Tout du moins, on peut vouloir aider, mais ne pas être en situation de pouvoir le faire. Alors, on peut rappeler aussi que Martine, la présidente actuelle de Nosig, est quand même historiquement une personne trans qui a compté, puisque dans la région, elle a été la première à faire la une de l'actualité sur cette question-là. En plus, prof dans un établissement privé, donc ça avait eu un certain retentissement.
Oui, et puis Gwenola aussi a été prof dans le privé catholique aussi, dans des grands lycées très connus à Nantes, et elles ont pu faire leur transition sur poste, c'est-à-dire qu'elles enseignaient en hommes, et l'année scolaire suivante, elles sont arrivées en femmes. Et elles ont été acceptées par leurs collègues, par la hiérarchie et par les élèves.
Comme quoi ?
Dans des lycées catholiques.
Comme quoi tout est possible.
Hein. Et voilà.
Je voudrais m'attarder maintenant sur les conditions de tournage, parce qu'il y a une question qui se pose, parce que quand on voit le documentaire, quand on a eu la chance de le voir vendredi dernier en avant-première au 14A à Nantes, on voit bien que tout cela et les caméras sont posées, enfin on voit bien qu'il y en a plusieurs pour pouvoir avoir toutes ces images. Est-ce que c'est difficile pour la réalisatrice que tu étais de faire oublier aux personnes qui témoignaient les caméras, et est-ce qu'il a fallu refaire anglais certaines parties de d'échanges pour pouvoir avoir un résultat final, ou finalement tout a été du premier coup?
Alors en fait pour ce genre de documentaire, le plus difficile au départ, c'est de se faire apprivoiser, entre guillemets. Parce que en général, caméra, réalisateur, tout de suite les gens sortent le chiffon rouge, ont peur, et puis il y a beaucoup de réalisateurs qui se font jeter des associations qui n'ont jamais pu y mettre un pied et filmer. Bon, moi d'abord, j'ai acquis la confiance du pôle trans de Nosig, de la commission trans, et donc elles ont accepté que je vienne filmer, mais c'est un accord collégial. Donc déjà, c'est le premier point. Je pense qu'on avait des affinités, qu'il y a eu une confiance naturelle qui s'est installée. Elles savaient que j'allais les respecter, que j'allais les protéger même. Et donc, elles m'ont fait entièrement confiance. Et je pense que c'est ça qui s'est dégagé. Et donc, les personnes qui venaient pour les entretiens étaient rassurées. Enfin, immédiatement rassurée, il y avait une bonne ambiance. Évidemment, toutes les personnes ont accepté d'être filmées, même de dos, hein, de toute façon. Mm-hmm. J'ai pas modifié les voix parce que je ne voulais pas que ça soit une sorte de pseudo-film façon caméra cachée, très très moche, parce que là c'est quand même un documentaire de création, donc j'attache de l'importance à la qualité de l'image et de la lumière. Et donc je voulais vraiment que ça soit un film à part entière et pas un reportage à la sauvette. Et ensuite, après, j'ai quand même filmé beaucoup d'entretiens.
D'accord.
J'ai pas tout gardé, bien évidemment. J'ai de quoi faire une série.
D'accord, ça on comprend bien. Mais c'est important hein, de se faire accepter, surtout de la part d'une réalisatrice qui elle-même n'est pas concernée ou pas directement concernée par la question transidentitaire. Et on a tellement refusé de propositions de TF1, de M6, qu'on est heureux d'avoir un documentaire en plus régional et tourné à Nantes qui va vraiment être utile. Alors, qu'est-ce que tu appréhendes le plus pour le 11, après diffusion?
Pas grand-chose.
Non, tu es confiante, je sais ce que j'ai compris.
Oui, je suis confiante.
D'accord.
Oui, parce que j'ai bien vu, même à l'avant-première, les réactions, il y avait évidemment toute la communauté trans de Nantes, et même au-delà, puisque des personnes sont venues de Rennes, de Saint-Nazaire, d'Angers, n'est-ce pas?
Oui.
Donc là, j'ai bien vu que le film avait été très bien reçu, il a été beaucoup applaudi, mes protagonistes ont été vraiment beaucoup applaudis aussi, elles rayonnent en fait dans le film,
oui.
Et même les personnes qui ne sont pas concernées, qui étaient présentes, donc des parents lambda ou même des personnes, des élus, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des profs, il y avait pas mal de profs aussi.
Des assos aussi.
Beaucoup d'assos, beaucoup de représentants d'assos, donc contact, donc je ne vais pas dire tous les noms d'assos, mais il y en avait beaucoup. Tous ont bien reçu le film.
On l'a bien compris. Okay.
À l'unanimité. Donc, qu'est-ce que je peux craindre? Après, bon, on sait que sur le web, il y a toujours des gens très lâches qui se lâchent dans l'anonymat, mais ça, on le sait. Ça fait partie d'un pourcentage qu'on envisage d'avoir, mais on passe au-dessus. Voilà.
Bon, donc, écoute, on attend avec impatience lundi prochain, donc le 11 à 23h sur France 3 Pays de la Loire, unique en mon genre de Pascal Fournier. Pascal, merci d'avoir été avec nous sur Radio G, Quasar Anzier. Très bonne soirée.
C'est moi qui te remercie.
Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir venir? C'est embêtant, c'est vraiment très embêtant quand on a décidé de diffuser quelque chose et que ça ne part pas. Voilà. Mais elle arrive, c'est Mylène. L'âme dans l'eau. h 22, Radio G, Quasar on the Air.
L'air est lourd de ton absence. Sourd à nos sentiments, l'air est court et mon manque de toi, toi mon autre moi, tu vois, j'ai l'âme dans l'eau. Si les songes ont des portes qui me mènent là à tes côtés, long de doigts j'ai dû traverser aux douleurs car nul ne sait, j'ai l'âme dans l'eau. D'où le souffle, nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau. J'ai l'âme dans l'eau. L'air est lourd de ton absence. L'air est sourd à mes sentiments. L'ange au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau. absence. L'air est sourd à nos sentiments. L'air est court et mon manque de toi. Toi, mon autre moi, tu vois, j'ai l'âme dans l'eau. Au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau.
Mylène Farmer avec son âme dans l'eau, qui est une reprise en fait d'un titre déjà existant et qui racontait l'œuvre d'une artiste. Très émouvante cette histoire, à revoir sur le net évidemment. Quasar on the air, 20h26, c'est maintenant l'heure de passer à un nouveau thème dans ce Quasar on the air, en parlant de la Pride de Toulouse qui a eu quelques soucis. Nous allons en parler avec Jérémy Perrard. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors on est heureux de t'accueillir et puis surtout que ça nous fait voyager, Angers-Toulouse, ça fait une belle distance finalement, direction la Haute-Garonne. Alors, vous avez bien évidemment décidé d'organiser votre Pride ce samedi 9 octobre. Je dis bien évidemment, en fait, la première des questions, c'est pourquoi cette date finalement, vous, à Toulouse ?
Alors c'est vrai que c'est pas la date forcément habituelle. Hein. Nous, la marche des fiertés, elle a lieu généralement le deuxième week-end du mois de juin. Simplement, c'est que on était conscient de la situation sanitaire. Lorsqu'on organise une marche des fiertés qui accueille quasiment plus de 30 000 personnes, c'est forcément on est attentif à l'organisation et surtout aux règles de sécurité. Et là, avec la situation sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons, qui a conduit l'année dernière, en 2020, malheureusement, parce que la marche des fiertés de Toulouse n'ait pas eu lieu, on a pris la décision de ne pas la faire. En 2021, on s'est dit, bon, allez, on va se donner toutes les conditions pour qu'elle ait lieu, et on a décidé de la faire sur le second semestre. Et après, il fallait tout simplement trouver la bonne date au regard des disponibilités, liées surtout à la place du Capitole, qui est la place emblématique de la ville de Toulouse, c'est là où, qui est la place du pouvoir. Elle était disponible, il faut être clair, elle était disponible à cette date-là, et donc on a dit, allez, on la positionne, on croise les doigts pour que le temps soit avec nous, et finalement, le temps est avec nous, même s'il y a eu quelques perturbations.
Voilà, vous avez eu des perturbations avec un bras de fer gagné contre la préfecture de Haute-Garonne, mais avant d'en parler, la réalité de la Pride Toulouse, elle s'organise comment ? C'est-à-dire que vous avez des partenaires, des associations, des collectifs, c'est collégial ou c'est une structure qui s'appelle Pride Toulouse dont tu es le directeur, qui pilote et qui décide ?
Alors, l'organisation, elle est assez particulière, elle est un peu, ça veut dire, singulière. Pride Toulouse, donc, c'est une structure associative, mais aussi un collectif associatif qui est assez récent parce qu'elle a été créée en 2016. Elle est issue d'une autre organisation qui s'appelle Arc-en-Ciel Toulouse Occitanie, qui a porté la Pride pendant 15 ans. À l'issue de ça, c'était une commission de cette structure. Elle a pris son autonomie en 2016 parce que la Pride, au fur et à mesure, elle prenait de l'ampleur. Il faut juste rappeler qu'en 2019, nous avons fêté la 25e édition de cette marche de fierté qui coïncidait avec les 50 ans des émeutes de Stonewall, la commémoration des émeutes de Stonewall. Donc, en 2016, elle prend son indépendance tout en gardant le lien avec Arc-en-Ciel qui devient en fait membre de ce collectif. Et ce collectif, c'est aujourd'hui plus d'une soixantaine de structures, plus de 60 associations qui en font partie. Alors, pas toutes LGBTQI+, mais qui se retrouvent sur une thématique qui nous tient à cœur, qui est la question des droits humains. 80% de ces organisations sont quand même des structures associatives LGBT. C'est quand même aussi une particularité de notre région, qui est la région Occitanie, c'est qu'on a vraiment un tissu associatif qui est assez dense, et tant mieux. Donc on a été en capacité, ce qui n'est pas forcément simple toujours, de garder l'unité de cette organisation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pride Toulouse, c'est l'outil au service d'eux. C'est-à-dire que le collectif associatif, c'est le collectif qui décide du slogan officiel, c'est elle qui décide de l'affiche officielle, c'est elle qui donne le là, en fait, de cette organisation. Après, Try Toulouse est en fait l'organe qui permet de mettre en œuvre ce qui a été décidé par le collectif. Après, on a une organisation qui est assez particulière. On se réunit régulièrement. Il faut arriver à trouver le consensus parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, hein, finalement, parce qu'il y a beaucoup de tendances différentes. Mais on arrive quand même finalement à Toulouse et en région Occitanie à faire en sorte que cette marche des fiertés, qui est quand même une marche importante, qui est importante en région, hein, plus de 30 000 personnes, avec un village associatif, on arrive quand même à trouver l'équilibre et faire mettre de côté des fois nos différences pour l'intérêt général, qui est l'intérêt de porter les éléments qui seront importants pour nous, hein, les messages forts de la communauté LGBTQI+, et de faire en sorte que cette marche des fiertés se passe dans les meilleures conditions. Après, on a une organisation qui s'est professionnalisée aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je suis directeur salarié de Pride Toulouse. Il n'y a pas beaucoup de Pride d'organisations qui ont aussi des salariés. Moi, j'étais co-président, j'étais président pendant quasiment 2 ans, plus 3 ans de l'organisation, avant de devenir salarié. C'est un choix qu'on a fait parce que ça devenait de plus en plus lourd. Organiser une Pride, organiser une marche des fiertés, ça demande, c'est plus d'un an d'organisation, proprement dit. Alors, il y a la marche des fiertés, mais il y a aussi le festival que nous portons. Nous avons un festival régional qui est quand même présent sur plus de 10 départements en région Occitanie, sur 13. Donc, c'est un outil aussi au service d'eux, parce que ce festival permet de préparer les populations à voir aussi la marche des fiertés être organisée. Et c'est aussi de donner des explications pourquoi ces marches des fiertés, elles existent, pourquoi celle de Toulouse, elle se met en place chaque année. Alors, et on se voit qu'en fait, ça c'est important parce qu'en plus, avec le bras de fer que nous avons vu avec la préfecture, on s'est rendu compte qu'il fallait encore faire un gros travail d'explication finalement.
Alors justement, parlons-en de ce bras de fer, non sans rappeler utilement, comme tu l'as fait tout à l'heure, l'histoire des marches et se rappeler que Toulouse fait partie des villes qui ont été les premières après Paris, bon, surtout Rennes d'abord, Montpellier et puis Toulouse après, et ça convoque les Nantes aussi, les figures historiques de Jacques Ars à Rennes, de Fabienne Larivière à Montpellier, de Pascal Ouchmaya à Toulouse et de Christian Dubs à Nantes. Alors ce bras de fer là avec la préfecture, qu'est-ce qui s'est passé très exactement et on en est où aujourd'hui?
Le bras de fer est très simple, c'est que sous un prétexte de problématiques sanitaires, mais surtout de sécuritaires, pour être conscient quand même que Toulouse fait partie des villes où la mobilisation, les mobilisations sur les droits sociaux sont quand même présents. Mm-hmm. Voilà, c'est, même si en plus on est sur une municipalité, on fait pas de politique, mais on regarde un peu la situation, on est quand même aujourd'hui sur une ville qui est pilotée par un courant droite, centre-droit, reste quand même une terre où les mouvements sociaux sont les plus forts, restent fortes. Là, on a eu en 2019 le mouvement des Gilets jaunes qui a mis quand même des difficultés aux organisateurs, où j'en faisais partie, pour faire en sorte que notre marche des fiertés ait lieu. Il y a eu un bras de fer à l'époque de la préfecture où ils demandaient à l'époque de changer la date, de se positionner le dimanche ou de changer de tracé pour faciliter les questions de maintien de l'ordre public. Nous avions, dès l'époque, en 2019, monté au créneau, on avait, avec le collectif associatif, montré les résistances parce que on ne voulait pas être invisible, on ne voulait pas nous mettre en dehors de l'hypercentre, et surtout, on ne voulait pas être un dimanche, même si c'était un jour intéressant, mais nous, l'activité de Toulouse, elle se fait sur les journées où il y a de l'activité commerciale, il y a de l'activité de la présence, et le puis, samedi, on sait très bien qu'il y a plus de monde.
Et puis depuis, les manifs anti-vaccins et anti-pass, et puis rebelote la même demande.
Mais on rebelote. Même chose, effectivement. Et malheureusement, en 2019, on y est arrivé, le bras de fer, on se retrouve cette année avec la même situation. Et là, c'était beaucoup plus compliqué parce que finalement, on a perçu, je l'avais perçu en 2018, et ce 2019 confirmé, que la préfecture, l'État, en fait, finalement, par l'intermédiaire de la préfecture, ne prenait pas forcément conscience de la symbolique de notre mouvement. Quand vous avez quand même des messages qui sont celui-ci en disant que en fait on est perçu comme un carnaval, c'est pas moi qui l'ai inventé le terme, hein, mais qu'on l'entend de la part de certains représentants de la...
Allô, Jérémy.
On dit combien qu'on est, quelle est la considération que nous portons, que eux portent sur notre mouvement, qui est un mouvement revendicatif, politique et commémoratif, comme tu le sais, et comme beaucoup de nos auditeurs le savent.
Évidemment.
Mais mais au niveau de la préfecture, c'était pas forcément le cas. Donc, on a tenté, on a expliqué, on a fait de la pédagogie, comme nous faisons à travers notre festival, pour expliquer l'utilité de notre marche, mais finalement, ça n'a pas servi. Ça n'a pas suffi. Et donc, il a fallu derrière aller au créneau. Et c'est la première fois que finalement, puisque depuis puisque tout s'est cristallisé, tout s'est un petit peu enchaîné à partir du 16 septembre, où on a eu la menace d'une interdiction formelle de notre marche des fiertés. Mmh. Première fois en France qu'on se recevrait interdite en raison de simplement de mouvements non déclarés. Nous, on est quand même un mouvement pacifique, déclaré, qui respecte la loi, qui derrière met les éléments de sécurité en ordre avec un service d'ordre, tout ça, qui fait que même la préfecture nous dit chaque fois que notre événement ne produit aucun problème. Et bien là, on nous dit, en fait, comme on n'arrive pas à gérer des possibles perturbations de mouvements déclarés ou non déclarés, on préfère que finalement vous soyez soit dans un autre quartier, dans un autre secteur, soit vous changez de date.
En deux mots maintenant, qu'est-ce qu'il vous a fallu faire très exactement, puisque ce n'est pas pris en compte?
Mais il a fallu derrière se mobiliser. 48 organisations ont décidé de co-signer un appel unique en France aussi. 48 organisations ont fait un appel sur les médias, qui a eu une portée importante, parce que Libération a relayé ça et ça a eu aussi un effet important. On a fait aussi une pétition. 12 000 personnes ont signé la pétition pour expliquer que finalement, non, on arrête. Dans une société qui aujourd'hui veut fracturer les personnes, qui veut derrière opposer les personnes, on considère que la marche des fiertés est en fait un outil également pour faire renaître la cohésion. Nous sommes là pour aussi expliquer qu'il faut arrêter de discriminer, d'opposer les gens, et qu'au contraire, cette marche qui a fait 50 ans que nous marchons, 25 ans pour Toulouse, elle est aussi un bel outil pour ressouder les populations. Et en même temps aussi, c'est un outil également de rappeler que ce que nous avons aujourd'hui en termes de droits et de liberté, rien n'est acquis. Et que quand il y a les élections, des futures élections qui arrivent, qui sont capitales pour nous, qui sont les élections présidentielles et législatives, il faut faire attention à quel bulletin de vote nous allons mettre dans l'urne. Exact. Et donc, il faut faire ça.
Alors,
et ça,
donc,
c'est capital.
Samedi, la marche a lieu sur votre parcours déclaré en préfecture. On rappelle que vous déposez un parcours, mais vous ne demandez pas l'autorisation. C'est juste une déclaration. Et donc, tout va être bon. Et quel rapport vous avez avec la mairie, en deux mots, avant qu'on ne se sépare?
La mairie, en fait, c'est compliqué, parce que alors la mairie, on a une relation, c'est un partenaire, c'est un financeur, il nous finance notre organisation. Et la mairie a un petit peu botté aux touches, parce que considérant à juste titre que ce n'était pas sa compétence première, que c'est la compétence du préfet et donc du gouvernement de prendre une décision d'autoriser ou pas d'autoriser. Mais bon, il est vrai qu'il a fallu quand même, et on aurait aimé à un moment donné que les collectivités territoriales s'engagent aussi à nos côtés, de telle manière à aussi à dire que attention. On peut, c'est pas une manifestation, anodine. La marche des fiertés, elle est importante, elle est plus qu'importante au regard de la situation que vive la communauté LGBTQI+, et qu'aujourd'hui, il faut faire attention à quel message qu'on veut lancer, quel message qu'on veut donner. Donc, on aurait aimé. Maintenant, la marche des fiertés, elle a lieu. On aura cette marche le 9 octobre. Il y aura les collectivités territoriales. Il y aura des milliers de personnes dans les rues de Toulouse, parce qu'on attend entre 15 et 20 000 personnes dans les rues de Toulouse. Tant mieux. Mais elle laissera quand même des traces.
C'est bien clair, et il y avait un danger pour toutes nos marches en réalité, parce que ce qui s'ouvre comme brèche quelque part peut s'appliquer néanmoins quelque part autre part, et c'était à surveiller. Le mot d'ordre de cette année pour nous quitter?
Liberté d'identité, liberté d'aimer. Si je pense que c'est le slogan qui peut nous rejoindre. Attention à ces libertés, elles sont fragiles.
Donc, justement,
à nous de nous mobiliser.
Merci Jérémy d'avoir partagé cet instant sur Quasar on the Air, et bonne marche samedi à Toulouse. Oui. Ciao.
Merci, belle soirée à vous.
Au revoir.
Radio G 101.5 FM.
Un troisième invité dans quelques instants, il nous appellera depuis Londres. Quelle chance! En attendant justement Londres, Dépêche Mode, quelques souvenirs.
Oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed.
Enjoy the silence. Et pourtant, nous n'allons pas faire silence, puisque c'est la dernière page de ce Quasar on the air, avec un nouvel invité au téléphone. Il nous rejoint depuis Londres, où il est. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors, on va te présenter. Tu es Benoît Berthe-Siouard, qui fait partie du collectif Rien à guérir, parce que nous allons parler de ces fameuses thérapies de conversion. Et on va rappeler à celles et ceux qui n'auraient peut-être pas encore bien raccroché le collectif Rien à guérir, avec ce fameux documentaire Homothérapie, conversion forcée de Bernard Nicolas, avec deux jeunes journalistes de l'école où il pratiquait et qui avait été diffusé sur Arte. Et toi, tu fais partie, avec Jean-Michel Dunant, de deux des témoins français de ce documentaire. Et c'est là Absolument. Que vous avez créé ce collectif. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu la genèse du pourquoi de ce collectif, et qu'est-ce que finalement vous portiez et qu'est-ce que vous continuez à porter? Et on va parler de la première lecture victorieuse de cette proposition de loi mardi dernier à l'Assemblée nationale. Donc, Rien à guérir, c'est qui, c'est quoi?
Oui, en fait, en 2019, non seulement il y a eu un documentaire et un livre de ces deux journalistes, Timothée Dereglot et Jean-Louis Adenor, mais en plus de ça, en parallèle, et c'est un hasard total, il y a des députés qui travaillaient déjà sur le sujet des thérapies de conversion, donc ces pratiques qui visent ou qui prétendent modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, donc des gens qui veulent, si on veut vulgariser la chose, guérir les homosexuels ou les personnes transgenres. Et en fait, il y a eu une libération de la parole en 2019 via cette mission parlementaire, mais aussi ces documents, livres et documentaires. Et en fait, petit à petit, on a commencé, les témoins qui avaient participé à ces objets, à recevoir des courriers, des mails, d'autres témoignages. Et on a vu et ressenti le besoin de beaucoup de personnes qui n'avaient pas encore libéré la parole de parler, mais dans un endroit un peu safe, un endroit où on peut parler tranquillement, un lieu privé. Donc on a monté, c'était un groupe Facebook privé en fait, tout simplement, où les gens ont commencé à échanger. Et en 2020, on a senti que politiquement, ça commençait à faire des bulles, si je peux m'exprimer comme ça.
L'image
est belle. Parce qu'il y a eu une demande, un petit peu bizarre de la part du ministère de l'Intérieur avec Marlène Schiappa d'associer en fait cette interdiction que nous on demandait avec les parlementaires qui travaillaient sur cette mission flash, de l'associer au projet de loi séparatiste donc qui combat les dérives sectaires. Et donc on a voulu faire une tribune dans Le Monde. Les personnes qui ont été abusées, victimes et rescapées de ces thérapies de conversion. Mmh. Et c'est là que le collectif Rien à guérir est né, parce qu'il a fallu trouver donc un titre un petit peu, et puis aussi signer un peu sous le collectif avec ses membres. Et donc c'est finalement en mai 2020 que vraiment est né le collectif, après d'une part ces demandes de parole de gens qui ont subi ces mêmes choses, et aussi un besoin un peu plus public de s'exprimer sur le sujet sous le chapeau en fait de ce collectif. Et on a aussi bien vu que dans la société les gens ne connaissaient pas l'existence de ces thérapies de conversion en France, tombaient de leur chaise, étaient interloqués ou ne savaient pas du tout ce que c'était. Et donc on a voulu aussi faire de la sensibilisation et de la pédagogie sur les réseaux en faisant un peu campagne. Alors, voilà, donc c'est Rien à guérir.
On rappelle, Benoît, que le documentaire de Arte, Homothérapie conversion forcée, avait une forte prégnance sur les mouvements religieux. Et toi, c'est par ce biais-là, Jean-Michel aussi, quand vous avez raconté votre histoire personnelle, c'est par le biais du vécu au sein de l'Église catholique en France, pour toi et Jean-Michel Dunant, et puis pour les autres témoignants. C'était aux États-Unis ou en Allemagne, c'était une autre approche. Au jour d'aujourd'hui, sans faire de lien évidemment, mais avec le fameux rapport qui a été dévoilé, quel est ton état d'esprit vis-à-vis du vote de la loi en première lecture à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce que vous, le collectif Rien à guérir, avez comme demande précise maintenant que cette première étape-là est passée haut la main ?
Bah, déjà, on est hyper heureux d'avoir vu tous les groupes politiques voter pour l'interdiction de ces thérapies.
Unanimité.
On s'y attendait. Ça a été l'unanimité. Ouais. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'une loi qui vise à protéger les personnes LGBT est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en France. Donc c'est une belle victoire. Symboliquement, c'est fort. Ça montre la volonté politique d'enrayer ces pratiques. Maintenant, une première lecture et un vote à l'Assemblée nationale ne fait pas de promulgation automatique de la loi, puisqu'il faut faire une navette au Sénat. Et donc nous, ce qu'on demande, évidemment, vu que le quinquennat va se terminer bientôt, c'est que une date soit trouvée, puisqu'il n'y en a pas encore, de trouver rapidement au Sénat pour avancer sur ces questions. Et on espère, une fois que la date sera trouvée, que les sénateurs, qui sont traditionnellement plus conservateurs, ne vont pas amender le texte ni désapprouver le texte. On est assez certains qu'ils ne vont pas le désapprouver, parce qu'il y a une unanimité, puis il y a le gouvernement aussi qui est en soutien sur cette proposition de loi, mais en tout cas faire des amendements, ça on a peur. Ouais,
oui,
effectivement.
Alors, on va se dire les choses quand même, hein. Il y a une majorité au Sénat qui est plutôt de droite, menée par Bruno Retailleau, et sur les questions LGBT, il y a toujours été opposé. Donc là, ça va être un peu... Vous avez des pistes déjà, des prises de position en connaissance, ou pour l'instant c'est un petit peu nébuleux?
Des prises de connaissance par rapport aux amendements?
Oui, ou à leur volonté finalement vis-à-vis du texte?
Eh ben, en fait, le point qui pose problème, curieusement, nous on craignait qu'il y ait des questions sur la liberté individuelle, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans ces pratiques de thérapie de conversion, sous la pression finalement de l'entourage, hein, l'homophobie. Donc on parle de liberté individuelle, mais on y met des grosses guillemets. Mais beaucoup de personnes, au début, ont commencé à parler de ces questions-là. On a réussi à faire, via nos campagnes et le travail de sensibilisation, on a bien expliqué que la liberté individuelle n'était pas légitime comme argument quand on parle de torture ou d'abus. On peut pas utiliser cet argument-là. Il y a d'autres qui utilisaient au tout départ la question de la liberté de la foi, mais là encore, on a fait un travail avec les institutions religieuses qui ont condamné ces pratiques et qu'on l'a redit fort. Aucune doctrine, aucune foi ne peut légitimer de telles dérives et qui mettent la vie en danger des gens. Mais finalement, ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est quelques députés de droite et d'extrême droite finalement désapprouver ce qu'ils appellent la théorie du genre, cette fameuse théorie du genre qui n'existe pas du tout en vérité. Oui. Et donc, il n'y a que des études de genre, de sciences humaines qui nous apprennent que le genre n'est pas égal au sexe. Et donc, en fait, finalement, c'est la question transidentitaire qui divise tant la société aujourd'hui qui revient sur le débat via les thérapies de conversion.
En fait,
problématique.
Voilà. Et en fait, ils ne font que de nous parler d'eux-mêmes et de leurs propres craintes et non pas de la réalité du
Absolument.
Texte.
Absolument.
Voilà.
Oui, parce que finalement, nous, on le voit au sein du collectif, même si vous avez raison qu'on a une grande majorité de personnes victimes de thérapies de conversion religieuses, mais il faut répéter, il y a aussi des thérapies de conversion médicales et c'est sociétales. Mmh. On a quelques personnes transgenres qui sont dans notre collectif, qui nous ont parlé de leur vécu, qui est d'une violence aussi assez incroyable de thérapies de conversion. Au final, les thérapies de conversion faites à l'encontre des personnes transgenres aujourd'hui en France sont beaucoup plus assumées, beaucoup plus violentes, parce que la transphobie est encore bien trop présente sur notre sol. Et finalement, nous, on sonne justement l'alerte. La volonté des députés, c'était de retirer le point transidentitaire, donc de retirer les thérapies de conversion, l'interdiction des thérapies de conversion à l'encontre des personnes transgenres. Et nous, au contraire, nous, ce qu'on souhaite dire, c'est non, surtout pas. C'est justement là où le danger est en France en ce moment. Ce type de pratique est très dangereux et met vraiment la vie de personnes en danger, quoi.
Alors, une question par rapport au cas différents qui peuvent recouvrir la notion de thérapie de conversion. Est-ce que vous avez réussi à travailler ou pas du tout tout ce qui concerne les personnes intersexes, c'est-à-dire en termes de thérapie de conversion, ces opérations de mutilation sur les nourrissons intersexes? Ou alors vous n'avez pas eu de pont avec les associations intersexes?
En fait, il y a eu beaucoup de débats beaucoup de personnes considèrent en fait que les thérapies de conversion, au final, c'est toute pratique qui vient un petit peu changer et forcer la main sans consentement réel de modification d'une identité propre ou intenter en fait de mettre des gens dans des cases sous prétexte d'idéologie de l'homosexualité, c'est sale, c'est le démon, etc. Donc tu seras hétérosexuel. Et donc les mutilations qui sont faites à l'encontre des jeunes personnes intersexes, pour beaucoup d'entre nous, quand on regarde la définition finalement et les méthodes qui sont pratiquées dans les thérapies de conversion à l'encontre de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, est très similaire finalement aux mutilations faites à l'encontre des personnes intersexes. Mais là, on a eu un vrai mur très difficile des parlementaires il y a eu beaucoup d'amendements, notamment de la gauche et de l'extrême gauche, pour y inclure les mutilations considérées comme étant des thérapies de conversion faites à l'encontre des personnes intersexes au final, mais ça a été retoqué à chaque fois, donc refusé.
La question intersexe est vraiment celle qui est la moins saisie hein, par les parlementaires, parce qu'elle est mal connue encore aujourd'hui.
Je
reste absolument persuadé, je ne fais que dire cette chose, c'est quand on l'aura bien appréhendée et qu'on sera vraiment aux côtés des personnes intersexes, que toutes les questions binaires du genre et de l'état civil seront réglées une bonne fois pour toutes et tout le monde pourra effectivement avoir une vie bien heureuse. Alors, en parlant de vie
Absolument.
Bien heureuse, bon, il y a cette satisfaction de première lecture. Qu'est-ce qu'on devient soi-même quand on est un peu porte-parole ou quand on est sollicité par une association, comme ce soir, un peu en urgence pour prendre la parole? Est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on va s'en sortir un jour de cette réalité-là? Et est-ce qu'on ne sera pas un peu abîmé, fracassé? Ou est-ce que la vie continuera?
Une fois que le texte sera passé, vous voulez dire? Moi, je vais faire une réponse très bizarre, mais c'est la réalité de ce que je vis. Je suis épuisé, en fait, parce qu'il y a des... C'est, en tant que porte-parole de Rien à guérir, il y a eu énormément de demandes médiatiques. Donc déjà, ce soir-là, je suis très heureux de vous avoir au téléphone, mais c'est très, très fatigant parce qu'il faut raconter son histoire constamment aux médias qui nous demandent de raconter des événements pas joyeux de notre passé, finalement. Hein. Mm-hmm. Donc, déjà, c'est pas facile. Et puis, au niveau du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc déjà, la joie qu'il va y avoir, pour moi personnellement, et là c'est très égoïste ce que je viens de dire, c'est de voir une loi, le travail fait, c'est-à-dire une loi qui nous pensons sera efficace, forte, et sera un vrai outil pour réaffirmer à la société que non, les thérapies de conversion ne sont pas acceptables en France en 2021, et jamais d'ailleurs, ça n'aurait jamais dû être acceptable dans notre pays. Aussi le bonheur de peut-être se dire qu'on aura sauvé des personnes de ces thérapies de conversion, parce que une loi, c'est pas juste un outil qui punit, c'est aussi un outil qui dissuade, et donc peut-être qu'on aura dissuadé des parents en faisant de la pédagogie. Donc déjà, il y aura évidemment un grand bonheur de voir cette loi passer, mais aussi de mon côté, personnellement, j'espère pouvoir passer un petit peu à autre chose aussi. Voilà. Et de mettre dans le passé ces pratiques barbares moyenâgeuses, un peu comme certains disent, voilà, et d'essayer de construire. Je pense que quand on a été cassé avec des thérapies de conversion, à cause de ces thérapies de conversion, c'est important de ne pas nier les cicatrices, mais de construire par-dessus. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'admire beaucoup Jean-Michel Dunant, une autre personne, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui a témoigné dans ce documentaire et ce livre. Il y a une force de reconstruction et une humilité par rapport à la fragilité de la personne qui, moi, m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire, enfin, être conscient qu'on est fragile, que ça nous a fragilisés, mais quand même construire et aller de l'avant. Et je trouve que Jean-Michel le fait merveilleusement. Il me montre la voie du haut de ses années, puisqu'il est plus âgé que moi, et ça m'inspire.
Mais ça l'a beaucoup marqué récemment, et effectivement, il a vécu une période quand même compliquée. En tout cas, Benoît, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, on s'excuse pour ce dérangement, mais on était quand même très contents de discuter avec toi.
Très heureux.
Et on se dit avec plaisir à une prochaine fois. Très bonne soirée. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight
sun. Alors, puisque ce soir, eh bien, nous sommes là, on va en profiter pour vraiment rentrer dans l'agenda et pour refermer cette page de Quasar on the Air. Vous rappelez que samedi prochain, 14h, Rangement Pride, Transat à 15h pour le groupe de parole non mixte pour les personnes transgenres, agenres et non binaires. Et puis, à 17h, la permanence. Notez le retour des conviviales vendredi 15. Et le retour des convivial, ça veut dire qu'on va pouvoir se réunir à nouveau, manger, boire un coup, papoter, plaisanter. Mais attention, pour des raisons que vous comprenez bien, il y aura contrôle du pass sanitaire à l'entrée pour être tous et tous dans les meilleures conditions. Samedi 16, ça sera la réunion à 14h30 de tous les acteurs et toutes les actrices bénévoles de Quasar pour faire le bilan de la Pride, la permanence à 17h. Et puis jeudi 21, dans la semaine, à 19h, ce sera Transparent, le groupe de parole des parents et familles des enfants ou des moins jeunes, transgenres, agents et non-binaires. Et puis les permanences, le 23 et 30 à 17h. Et vendredi 22 octobre, à 19h, ce sera la réunion des croyants LGBT d'Anjou. Belle soirée en Anjou sur Radio G. Quasar on the Air revient dans 15 jours avec de nouvelles aventures, de nouveaux invités. Portez-vous bien. Si vous avez besoin de contacter Quasar pour un rendez-vous, pour des problèmes, vous connaissez le site quasar.fr. Très belle nuit. À bientôt. Au revoir.
Radio G, 101.5 FM. Yes.